Au-delà des apparences.
Au-delà des apparences.
Une émission proposée par Sandrine Merck.
Chers auditeurs de Radio Présence, vous avez peut-être découvert la semaine dernière dans cette même émission, Au-delà des apparences, cette petite fille, Leïla, qui raconte son enfance de pauvreté et d'insécurité. Alors elle poursuit, aujourd'hui elle a poursuivi son histoire qui est très riche en rebondissements. Donc aujourd'hui elle a 28 ans, je l'ai connue, elle en avait 6. Et aujourd'hui, elle en connaît 10 fois plus que moi sur certains milieux, sur la grande pauvreté, sur les trafics en tout genre et sur les grands pièges de la société, notamment dans l'enfance et dans la préadolescence. Il y a des situations sociales qu'on ne peut réellement percer à jour que lorsqu'on les vit, et c'est probablement ce qui lui donne ce mental d'acier dont elle nous parle. On va continuer puisque elle a le brevet à l'heure où on se parle, mais ensuite il y a tout le périple vers le baccalauréat, une autre obstination complexe, mais une victoire démesurée, je dirais.
C'est ça. J'ai eu. Alors, je me retrouve au lycée, au lycée pro. Sauf que ma prof du collège, elle était contre que je vais dans un lycée pro. Elle voulait que je fasse en général. Sauf qu'avec mon dossier, vu que j'ai rien foutu pendant 3 ans et que même si j'ai eu le brevet, mais ça ne comptait pas, en fait c'était trop tard. Du coup, je me retrouve dans un lycée pro. Malheureusement, dans le lycée pro, c'était trop facile. C'était trop facile. Je me suis retrouvée avec des gens qui étaient. En fait, je m'ennuyais en cours. Non, malgré que après le brevet, je voulais aller loin dans les études. Le souci, c'est que je me suis retrouvée à m'ennuyer en cours. Du coup, on était dans un lycée pro. Et dès que je m'ennuyais, en fait, on était dans un lycée. Non, c'était beaucoup plus libre. Je pouvais arrêter l'école quand je voulais. Je pouvais sortir quand je voulais. Du coup, je n'y allais plus en cours. Je me suis fait virer en première. Je me retrouve en première sans lycée. Je me retrouve sans lycée. Aucun lycée ne me veut. Je viens d'avoir mon permis. Je décide. Je ne peux même pas travailler parce que je sais pas, mais je crois que je ne voulais pas travailler. Je sais pas. Franchement, je me rappelle plus. Sauf qu'après, je me reprends en main. Je me dis non, mais il faut que j'ai le bac et tout. Du coup, je vais m'inscrire en candidat libre. C'est le seul dans le lycée qui accepte de moi. Sachant que je n'ai pas fait ma première. Du coup, je m'inscris dans un bac en candidat libre. Tu me payes d'ailleurs les cours. Du coup, je me retrouve en terminale sans avoir payé les cours. Sans avoir fait ma première. Du coup, là, je commence à avoir des lacunes. Je commence à avoir des lacunes. Les gens ils me disaient ouais, mais le bac en candidat libre, c'est impossible que tu l'as, c'est pas possible. Après, je me retrouve, puis je passe mon bac. Et le problème, c'est que en fait, tu m'avais payé une étudiante qui était super cool. Elle m'apprenait, mais le souci, c'est que j'avais des lacunes, en fait. J'avais raté trop d'années. Et à la surprise, j'ai eu mon bac. j'ai eu mon bac en trichant. Oh, mais qu'est-ce que j'étais fière de moi. Et parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible, en fait. Et j'ai eu mon putain de bac. J'avais, je crois, 13 de moyenne. Non, mais j'ai eu un... Non, je sais plus, non, c'était 12 ou 13, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai eu mon bac. Non, c'était incroyable pour moi, parce que je me suis fait virer, j'ai triché sur ma première, je passe le bac en candidat libre, ça veut dire que mes cours, j'avais aucune prof, à part j'avais qu'une seule étudiante, et j'avais quoi, une heure par jour. Genre, j'ai tout misé sur ma tête, et j'ai révisé vraiment 2-3 mois avant le bac. Je restais chez moi, je révisais, et voilà. Mais c'était la chose de quoi j'étais la plus fière au monde. Parce qu'en fait, moi, dès qu'on me dit « Ouais, tu peux pas faire ça », en fait, ça me pousse à me donner encore plus et tout. Et voilà.
Et alors ce bac, en fait, ça te donne un sentiment d'orgueil très salutaire, mais vraiment salutaire, mais aussi de toute puissance qui était très trompeuse, celle-là. Parce que tu penses que les portes du paradis sont ouvertes, que tu as fait l'essentiel du chemin, que tu n'as plus rien à faire, tu plantes toutes les pistes de formation proposées, enfin, qu'on avait préparées ensemble, tu ne vas pas au rendez-vous et tu disparais de ma vue pendant à peu près 2 ans, quoi. Et alors là, c'est vraiment une vie de patachon, de débauche, je dirais, hein. C'est les jeux, c'est tu profites, quoi, en fait.
Exactement. Alors, mais avant ça, j'ai travaillé.
Dis dans quoi ? Aide à domicile, mais ça, attends, tu vas préciser ta... Oui.
Oui, j'avais travaillé dans ça, auxiliaire de vie. Franchement, je faisais ça juste pour gagner de l'argent. Ça me faisait chier à mort. Parce que j'étais en manque d'argent, il fallait que je m'habille, il fallait que je mange, c'était compliqué. Sauf que après, j'ai arrêté parce que ça me saoulait.
Alors, je donne une petite précision quand même. Tout le monde s'arrachait tes services. Parce que, évidemment, socialement parlant, t'es quand même au fait. Tu sais ce que c'est que la pauvreté, que le soin, que l'humain, je dirais. Donc, tout le monde s'arrachait tes services. Tu aurais pu monter une entreprise très, 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 très vite. Sauf que, là encore, il y avait des injures. Il y avait j'ai un souvenir très, très malheureux. D'un stage que tu avais fait en troisième dans une maison de retraite où tu te faisais complètement injurier par les vieilles dames que tu soignais. Du racisme encore là.
Ah oui, oui, non, mais même au jour d'aujourd'hui, même dans le métier que je fais, des fois je tombe sur des racistes et tout. Après, quand j'étais jeune, ça me prenait à cœur. J'ai encore une fois ressenti ce rejet, ce mépris. Mais voilà, mais. Non, mais. Les personnes âgées dans la maison de retraite qui nous parlent mal, qui nous disent ne me touche pas, espèce de sale arabe et tout. C'était un peu compliqué, mais c'est encore une fois, en fait, c'est une blessure que j'avais quand j'étais petite, mais qui s'est encore ouverte. Mais voilà, mais après, voilà. C'est ça qui m'a aussi un peu. Je me faisais chier dans tous les sens du terme, en fait.
Alors, du coup, tu quittes ce travail et vraiment là, tu essaies de profiter de la vie, et là, c'est vraiment la vie de débauche, quand même. Hein.
Ouais, franchement, après, je pourrais essayer de profiter de la vie. Vraiment. Après, c'est quelque chose... Franchement, j'ai profité... En fait, moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas profité de la vie, parce que j'ai vraiment profité de la vie.
Comment, alors ? Les amis, le jeu, tu joues tout l'argent que tu n'as pas et l'argent des autres au casino ?
C'est ça. Je suis tombée dans un cercle vicieux au jeu d'argent. Vraiment. C'était l'une de mes... Comme on peut dire ça, en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment heureuse parce que, genre, c'était un jeu, c'était une drogue, ça m'excitait, j'aimais trop ça. Mais en fait, j'étais en train de m'enfoncer, j'étais en train de me créer mon propre tombe, j'étais en train de créer ma propre tombe. Le souci, c'est que, comme au début, j'avais beaucoup de chance, j'ai gagné des sommes astronomiques. Vraiment, je gagnais des grosses sommes. Puis j'ai vite appris au jeu, puis j'ai vite pris plaisir. Sauf que, en fait, le jeu d'argent, c'est toujours eux qui gagnent. Et petit à petit, je perdais des grosses sommes. En fait, je jouais même. En fait, au début, je jouais mais pour le plaisir, mais je me suis retrouvée à jouer pour le manque et l'argent. Mais quand je dis le manque, c'est le manque de la drogue. C'est comme si c'était une drogue, en fait, le manque. Et je jouais. Mais en fait, le problème, c'est que. Comment vous dire ça, c'est que je jouais bien. En fait, à chaque fois que je voulais arrêter, je n'arrivais pas. Du coup, j'empruntais de l'argent à droite et à gauche, je me sens endettée, mais vraiment endettée. Je me suis retrouvée, je vendais mes affaires. Je voulais juste jouer. Mes copines et tout, les gens de mon entourage me proposaient des restos au cinéma. Ah non, je peux pas. Je préférais ne pas manger et aller jouer avec. Et jusqu'au jour où là en fait j'ai eu je me suis retrouvée et après j'ai voyagé avec les sous que je gagnais, je voyageais, je m'habillais, en fait j'ai fait des choses avec l'argent, mais je pensais que c'était de l'argent que j'avais gagné, que j'allais plus rendre, mais à la fin je les ai rendus en double. Et après, en fait, un jour je me lève, j'ai pris ma carte bleue, je suis partie au casino. Et j'ai tout perdu en une seule... En une heure, deux heures, j'avais plus rien. Je suis rentrée chez moi en transpirant, en suant. Et sachant que j'avais une voiture, j'étais en réserve. Je suis tombée en panne sur le chemin du retour. Et c'est à ce moment-là. Et je suis rentrée chez moi, mais j'arrivais pas à dormir. Je transpirais. Je sentais que j'avais l'impression que j'allais faire un malaise. Et c'est à ce moment-là, en fait, je me suis dit non, mais c'est pas possible, c'est plus possible. Puis le lendemain, j'ai appelé puis le casino. J'ai dit oui, j'aimerais me faire interdire de tous les casinos. Et du coup, ils m'ont pris rendez-vous. Je suis partie me faire interdire. Et au début, ils m'ont dit de voir un psychologue. Ils m'ont dit, ouais, mais il faut venir. Au début, ils m'ont donné un rendez-vous loin. J'ai dit, non, 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 il faut que ce soit demain. Et ils m'ont donné un rendez-vous à la première heure. Je suis partie me faire interdire. Ils m'ont dit que c'était la première fois mais qu'ils voyaient une personne se faire interdire de sa propre volonté. Du coup, je me suis fait interdire. Les premiers mois, c'était super dur. C'était ma drogue qui me manquait. Et genre ça me manquait. Et j'ai cassé ma carte bleue pour pas jouer en ligne. Du coup, j'étais pendant 2-3 mois, j'étais en dépression. J'avais qu'une envie, c'est de jouer. Mais vraiment, le casino, c'était quelque chose. Ça faisait partie des parties de ma vie. Genre, si demain on me dit, mais parle des parties de ta vie, le casino, c'était. Voilà. C'était des sensations que je ressentais, que je n'ai jamais ressenties. Je sais pas si c'est pas si parce que j'aime l'argent et que j'aimais gagner de l'argent, mais je sais pas. Voilà.
Et puis t'as remonté toutes les années où t'avais du temps privé, tu claquais tout, c'était l'inverse de ce que t'avais vécu jusqu'à présent, quoi.
Exactement.
L'euphorie totale.
Exactement. Une fois, j'ai fait une partie de poker en une soirée, j'ai gagné 9000 euros. Je suis partie en vacances, je me suis acheté des habits. Genre vraiment, je vivais une vie que j'avais rêvé d'avoir avec de l'argent que j'allais rendre après. Parce qu'à la fin, le casino, il m'a pris plus que j'avais. Mais voilà, c'était une bonne période de ma vie.
Donc on passe à la prochaine émission pour parler de la suite. Parce qu'il y a de nouveau un rebondissement total dans ta vie. On en parle à la prochaine émission. On parlera aussi des ressorts de la drogue en général. Que ce soit la drogue qu'on consomme ou la drogue du casino, tu as compris à peu près les mécanismes, quoi, en fait. Donc à la semaine prochaine. Okay.